Le journal était signé Mathieu Laurent, que l'on retrouve à 9h. Bonjour à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le secret des sources et les coulisses de l'information. Les sales Français, tuez-les de n'importe quelle manière. Cet appel au meurtre a été lancé lundi dernier par Abou Mohamed El Adnani, porte-parole du groupe djihadiste L'État islamique. On connaît la suite. L'assassinat d'Hervé Gourdel par le groupe djihadiste Les Soldats du Califat. L'assassinat d'Hervé Gourdel a provoqué un choc en France, mais aussi en Algérie. La France ne cède pas au chantage, déclare François Hollande. Les frappes, la guerre en Irak continue, des frappes peut-être aussi en Syrie, contre l'organisation État islamique. Les drapeaux sont en berne en hommage à Hervé Gourdel. Les musulmans de France et leurs amis ont manifesté contre l'horreur barbare et dans une tribune publiée hier dans le Figaro, des personnalités musulmanes ont exprimé leur dégoût en affirmant « Nous aussi sommes des sales Français ». Alors nous allons voir comment la presse arrive à rendre compte de ces enlèvements, de ces assassinats, de la guerre qui se déroule en ce moment en Irak et en Syrie. Comment informer en évitant les pièges d'une propagande extrêmement violente, avec notamment des photos, des vidéos insoutenables. Avec nous en studio, Michèle Héridon, directrice de l'information de l'AFP. Bonjour.
Bonjour.
Et Régis Le Sommier, directeur adjoint de Paris Match. Bonjour.
Bonjour.
Également Jean-Pierre Perrin, grand reporter à Libération, et Christian Cheneau, grand reporter à France Inter et que l'on entend régulièrement sur France Culture, tous deux grands spécialistes du Proche et Moyen-Orient. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Nos deux regards extérieurs du secret des sources, Jean-Marie Charon, sociologue spécialiste des médias, et Thibaut Henton pour les images et le multimédia. Bonjour.
Bonjour.
Et en toute fin d'émission, nous rejoindrons Anaïs Feuga, correspondante de Radio France à Rome, et puis également le clin d'œil signé cette semaine, Nathalie Lopez. Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy avec Jean Frédérics. Vos commentaires, vos réactions, n'hésitez pas à vous exprimer sur notre site franceculture.fr. Bienvenue et merci d'être avec nous dans le secret des sources.
Vous comprendrez qu'aujourd'hui, je m'exprime devant vous avec une émotion particulière, puisque l'un de mes compatriotes vient d'être lâchement assassiné en Algérie par un groupe terroriste lié à Daesh. Il s'appelait Hervé Gourdel. Il a été capturé et il a été décapité. Voilà ce que le terrorisme fait.
François Hollande, mercredi dernier aux Nations Unies à New York. Voilà ce que le terrorisme fait. Alors on va en parler dans un instant du débat qu'il y a eu dans la plupart des rédactions, comment nommer ces djihadistes de l'État islamique. Mais d'abord, sur l'assassinat d'Hervé Gourdel, comment en avez-vous rendu compte? Le Parisien a titré le crime, Le Figaro a titré la barbarie. Libération, Jean-Pierre Perrin a fait une une toute noire avec une photo d'Hervé Gourdel et ce titre, décapité parce que français. Il fallait à Libé souligner l'effroi et la cruauté des assassins.
Vous savez, un titre comme ceci, c'est jamais très facile à construire. On a passé un bon moment à essayer de trouver ce qui était le plus humble possible pour dire l'horreur et la barbarie. C'est pas certain que nous y soyons parvenus. Nous avions plusieurs possibilités. L'un autre titre sur lequel nous avons beaucoup hésité, qui était la victime de guerre, parce que c'était quand même la première victime de la guerre que nous, Français, avec d'autres membres de la coalition, livrons à l'État islamique. Et puis, finalement, certains ont fait valoir que est-ce que c'était vraiment une guerre? Pour moi, ça fait aucun doute. C'est une guerre, dès lors qu'on emploie des tomahawks, des porte-avions, des missiles de toutes sortes et des avions. C'est bien une guerre que l'on livre. Mais finalement, nous sommes venus à ce titre. Voilà.
Michèle Héridon, à l'AFP, comment avez-vous rendu compte de de cet assassinat, en photo et en texte ?
Nous en avons rendu compte, comme nous avons rendu compte des assassinats de James Foley et des autres otages britanniques et américains qui ont été exécutés. Et donc le débat pour nous avait été lancé après ces assassinats-là et après ces premières images, puisqu'on a été dans les premiers justement à les recevoir, malheureusement. Et donc il a fallu qu'on fasse des choix sur justement quel usage on en faisait. Et ce qui a été décidé, c'est de nous accrocher le plus possible à nos valeurs, à nos valeurs éthiques, à nos valeurs professionnelles, et donc de décider, un, que l'information devait être donnée, donc une photo devait être donnée, mais qu'on ne voulait pas verser dans la propagande et que donc on se refusait à se prêter à la mise en scène. Et donc en photo, par exemple, on donne que des plans très très serrés des visages pour ne pas avoir toute la mise en scène macabre derrière, et bien sûr pas d'image animée et rien sur nos journaux internet.
Parce que les journaux, Libé, Le Figaro, Le Parisien, ont publié des photos d'Hervé Gourdel, mais à l'époque où il était libre, pas issu du tout de la vidéo de propagande.
Oui, nous l'avons fait également, hein, bien sûr. Et pour les autres, on ne disposait pas forcément d'images avant leur... On n'en disposait pas tout de suite, mais nous l'avons fait également. Mais c'est vrai que diffuser quand même des images de la personne détenue et menacée, c'est important aussi. Parce que sinon, on ne donne pas aussi la trace de l'horreur. Donc c'est ça le dilemme terrible auquel on est soumis, qui est de donner une information sans se prêter à la propagande et la mise en scène. Donc on a trouvé ce compromis, on l'a expliqué, y compris dans des blogs, pour expliquer un peu comment on en est arrivé à cette situation, à cette position.
Alors Régis Le Sommier, comment vous, à Paris Match, vous prenez la décision de publier une photo d'un otage ou d'une exécution ?
C'est une décision qui est extrêmement lourde. Hein, ça nous est arrivé de publier effectivement des photos fortes, y compris sur de la Syrie, des photos d'exécution. En l'occurrence, par rapport à ce à quoi on est confronté aujourd'hui, on est dans un processus où la violence est une fin en soi. On peut d'ailleurs tisser une différence entre Al-Qaïda et l'État islamique, en ce sens que Al-Qaïda utilise la violence de façon spectaculaire pour arriver à les préceptes de Ben Laden, une forme de califat aussi. Mais pour ce qui est de l'État islamique, la violence est un but, c'est-à-dire elle cherche à marquer les esprits, à instiller l'horreur, la peur, et à faire que auprès du monde entier, à travers les moyens de communication modernes, eh bien on est nous-mêmes peur. On est vraiment dans une dynamique qui est différente d'Al-Qaïda. Et là, pour ce qui est de montrer les photos, là, je rejoins tout à fait le point de vue de l'AFP, c'est-à-dire que nous, on n'a pas pu relater l'enlèvement puisqu'on était dans des délais de bouclage trop justes. En revanche, la semaine prochaine, eh bien, on va raconter Hervé Gourdel, l'homme, sa vie, qui il était, cet être apparemment généreux, guide de haute montagne, et qui a consacré sa vie à son sport, à sa passion, et qui faisait le bien autour de lui. Voilà ce qu'on va raconter. On ne montrera pas, ou on montrera le début, peut-être le moment où il est maintenu, puisque c'est là qu'on s'arrête. Et cette vidéo, on ne la montrera pas.
Alors, dans le match de la semaine dernière, vous montrez une photo glaçante, hein, qui est issue de la vidéo. On voit David Haynes dans sa combinaison orange et son bourreau qui a la main qui va se porter autour de son cou, une image figée. C'est intéressant ce que disait Michel Héridon, il faut quand même montrer la violence malgré tout, sinon elle s'atténue, elle s'oublie, on appréhende mal ce qui peut se passer.
Oui, et il faut la montrer, mais il faut l'expliquer.
Jusqu'à quelle limite alors ?
Je tenais à signaler une initiative assez intéressante que j'ai vue se développer sur les réseaux sociaux récemment auprès des amis de James Cantley, qui est un Anglais qui a été capturé par l'État islamique il y a 2 ans et qui actuellement a été, dont des vidéos ont été montrées, où il n'est pas exécuté, mais il récite une espèce de propagande visiblement forcée, complètement contraint. C'était un ami, un proche de Jim Foley d'ailleurs, et donc pour le moment, ils ne l'ont pas exécuté, mais ils s'en servent. Et il y a eu 2 vidéos où il raconte, il dit, mais vous, ce qu'on raconte sur l'État islamique, ça n'a rien à voir, etc. Et certains de ses amis ont décidé de montrer Jim Scantley le vrai. C'est-à-dire, il y a un mouvement qui s'est créé où les gens mettent des photos en disant « le type qu'on voit en combinaison orange, eh bien, ce n'est pas notre ami. Notre ami, voilà, c'était lui. Et diffuser ça au maximum, moi, je l'ai relayé sur mon Facebook tout à l'heure, parce que je trouve que c'est une initiative de contre-propagande qui vient de la part de notre profession et qui montre les gens différents. C'est-à-dire, voilà, ce ne sont pas ces gens contraints, forcés, qui ont vécu pendant 2 ans dans des caves et à qui on fait dire ces choses-là ou avant de les exécuter, en essayant de les utiliser, mais montrer les gens dans ce qu'ils ont été dans leur vie. Et ça, c'est une bonne manière d'utiliser les réseaux et de contrer cette propagande.
Christian Chenot, alors vous avez été otage, vous, de l'armée islamique en Irak, en 2004.
C'était il y a 10 ans.
C'était il y a 10 ans, avec Georges Malbruno. Votre position face à la violence, jusqu'où on peut aller pour bien faire comprendre aux lecteurs, aux téléspectateurs, aux auditeurs?
Pour moi, c'était un peu compliqué, parce que, évidemment, j'étais otage il y a 10 ans. Il y a l'image, dit des choses, mais dit pas tout. C'est-à-dire que c'est des vidéos, on ne sait pas dans quel contexte elles sont réalisées. Et c'est vrai que nous, dans notre cas, il y a 10 ans, l'armée islamique avait réalisé une vidéo où on demandait l'aide de la France, mais sans savoir qu'ils allaient faire un montage assez serré et donner un ultimatum de 48 heures. Et finalement, nous, on a connu l'ultimatum à notre tour. Où les gens nous ont dit qu'on a eu très peur à ce moment-là, mais nous, on n'était pas au courant. Mais c'est vrai que donc pour moi, je suis revenu dans ma profession de journaliste depuis 10 ans, et c'est vrai qu'au moment de l'affaire d'Avec Gourdel, bah, j'étais à la rédaction, et c'est vrai que ça a été un choc pour tout le monde, parce que le matin, j'expliquais que les 24 premières heures sont déterminantes. C'est-à-dire que normalement, quand on arrive à passer le début, après, il peut y avoir une négociation. Et malheureusement, le soir, donc évidemment, on a eu la nouvelle. Et nous, à France Inter, bah, alors c'est vrai qu'on n'a pas le problème de l'image, parce que nous, on n'a que des mots. On a d'abord essayé, parce que c'est vrai que les mots sont forts aussi, comme les images, de mettre des conditionnels, parce que l'information n'était pas forcément officielle, entre guillemets. On a essayé de faire une spéciale après pour expliquer bah, un peu les ressorts de tout ça. Et puis surtout, alors là on parle des mots parce que c'est quand même dans une guerre effectivement de violence, mais aussi des mots, c'est qu'on ne dit pas exécuter, on dit assassiner, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de cette radio qui s'appelait ce Bertin,
Patrice Bertin,
qui a été longtemps officier, et moi il m'a appelé, il nous a tous appris, un otage n'est pas exécuté, c'est un soldat qui est exécuté, là on assassine des gens. Donc effectivement, alors nous on a des petites armes un petit peu comme ça, de dire la réalité par des mots, et tout de suite, voilà, on a dit il a été assassiné.
Jean-Marie Charon, sociologue, spécialiste des médias, voulait intervenir.
Oui, ce que j'entends là est très intéressant, mais j'ai l'impression que vous êtes toujours dans le monde des médias d'hier. C'est-à-dire que c'était vous qui maîtrisiez effectivement les images auxquelles le public accédait, les textes et les sons. Mais sans avoir accès, je dirais, à des sources particulières, simplement par Twitter et par Facebook, je suis sans arrêt assailli par ces images qui, et sur Facebook d'ailleurs, avec un phénomène qui est encore plus brutal, puisque les vidéos s'ouvrent toutes seules. J'ai même pas besoin de cliquer dessus, elles s'ouvrent toutes seules. Or, il me semble que le public, notamment le public le plus jeune, c'est d'abord à cela qu'il accède lorsqu'il entend parler de cette région et de cette situation.
Michel Héridon.
Non, je voulais dire qu'effectivement, ces images sont partout, mais ça ne nous enlève pas notre responsabilité. C'est, nous, notre position, c'est de dire notre responsabilité, c'est justement d'exercer notre responsabilité, d'exercer nos choix et de ne pas contribuer au flot ambiant. Sinon, effectivement, on ne sert à rien. Après, le contrôle sur Facebook, etc., bien sûr, nous n'en sommes pas responsables. On exerce notre responsabilité au niveau de notre propre média.
Alors, en publiant des photos très violentes, en faisant attention, mais en les montrant dans nos journaux et nos magazines, en publiant donc ces photos très violentes qui viennent de ces groupes et en les voyant, par exemple, dans Match ou dans d'autres journaux. Donc, est-ce que ces djihadistes ne vont pas finir par en tirer une certaine fierté, c'est peut-être pas le bon terme, en tout cas, c'est fabriquer un pressbook de l'horreur, un titre de gloire? Est-ce qu'ils ne vont pas s'en prévaloir?
De toute façon, ils le recherchent. Je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. C'est que la série des décapitations auxquelles on a assisté entre Jim Foley, Stephen Sotloff et puis David Hines ont provoqué la coalition, une large coalition. Et aujourd'hui, la résultante, c'est quand même un certain nombre de frappes qui sont quand même très violentes contre l'État islamique. Alors, la question de la survie de l'État islamique est posée, c'est-à-dire combien de temps peuvent-ils tenir face à des bombardements américains? On sait que les bombardements américains peuvent être quand même terribles et puis qu'il y a un phénomène d'usure. Maintenant, les Américains sont contraints, là aussi, ils ne peuvent pas faire du carpet bombing, ils ne peuvent pas bombarder la ville de Mossoul, par exemple, qui est une agglomération de plus de 350 000 habitants. Donc,
2 millions.
En plus de la... Oui, voilà. On est dans une chose très, très complexe. Donc, leur logique, c'est ça, c'est d'aller au choc, d'aller au clash et de créer un conflit mondial. Donc c'est là, en ce sens-là, d'une certaine façon, ils y sont arrivés. Je ne crois pas que en publiant ou ne publiant pas, on va aller dans leur sens ou pas. Eux veulent que ça se voit et ça se voit. Et nous, en tant que journalistes, on est quand même obligés de le relater pour essayer de l'expliquer. Et là intervient notre professionnalisme, c'est-à-dire qu'on connaît ces régions et on va expliquer comment... En Irak aujourd'hui, puisque ça vient quand même d'Irak, hein, le conflit syrien n'est quelque chose de parallèle, mais ça vient quand même d'Irak, c'est l'État islamique d'Irak et d'Al-Sham à la base. Donc ça, c'est une des conséquences effectivement de l'invasion américaine de 2003 et des choses qui n'ont pas été réglées en Irak. Et ça, c'est des problématiques sur lesquelles aujourd'hui, évidemment, les Américains en particulier essayent de jouer la question des tribus sunnites, la question de l'avenir de l'État irakien, etc., etc.
Ouais, Jean-Pierre Perrin, c'est ce que vous nous disiez au début, on est vraiment en guerre quand on utilise toutes ces armes. Ça suffit, les bombardements, ce que nous rappelait Régis Le Sommier ?
Ah non, je ne pense pas que ça suffise, les bombardements. D'ailleurs, personne ne dit que les bombardements suffiront. Simplement, ils doivent être coordonnés.
Mais tout le monde dit qu'on n'en fera pas plus. Pas plus que de bombarder.
Non, il doit être coordonné avec, d'une part, un renforcement de l'opposition démocratique, entre guillemets, à l'intérieur de la Syrie, et une reconstitution de cette armée pléthorique qu'est l'armée irakienne, parce qu'on croit que c'est une petite armée, mais c'est une armée qui fait, les forces de sécurité du moins font plus d'un million d'hommes, et donc renforcer, faire une véritable armée, à ce moment-là, peut-être parviendra-t-on à juguler l'armée, enfin l'État islamique, mais c'est plus pour après-demain que pour demain.
Alors, il y a les photos et les vidéos, il y a aussi la façon de parler de cet État islamique, et c'est un débat très présent dans les rédactions, dans la plupart des rédactions, et aussi chez les hommes politiques.
Alors que la coalition internationale continue de frapper les positions de l'organisation terroriste Daesh,
assassiné par les terroristes algériens ralliés à l'organisation de l'État islamique.
Et le groupe État islamique représente une menace évidente.
Daesh était une menace pour l'ensemble du pays.
Assécher les ressources pétrolières de l'État islamique autoproclamé.
Le groupe terroriste dont il s'agit n'est pas un État. Il voudrait l'être, il ne l'est pas. Et c'est lui faire un cadeau que de l'appeler État. De la même façon, je recommande de ne pas utiliser l'expression État islamique, car cela occasionne une confusion islam, islamisme, musulman. Il s'agit, mesdames et messieurs, de ce que les Arabes appellent Daesh et ce que j'appellerai pour ma part les égorgeurs de Daesh.
Voilà, les égorgeurs de Daesh, nous dit Laurent Fabius. En tout cas, ce débat sur la façon de nommer, de parler de l'État islamique, vous l'avez eu à l'AFP, Michel Héridon.
Oui, tout à fait, on l'a eu, parce qu'effectivement, on était au sein de la rédaction, et en effet, le débat était très présent également sur les réseaux sociaux, partout et dans plein de rédactions. Donc c'est vrai qu'au départ, on parlait simplement de l'État islamique, et à la réflexion... On a eu un peu le même sentiment que le ministre, sauf qu'on n'est pas arrivé aux mêmes conclusions. Donc d'une part, on se refuse absolument à utiliser les termes d'égorgeurs, etc., comme dans n'importe quel autre conflit. En revanche, on a décidé de préciser à chaque fois le groupe État islamique ou l'organisation État islamique, parce qu'il ne nous appartient pas évidemment de changer le nom de ce groupe. Et en même temps, ça faisait une mini-distance. Je ne dis pas que c'est idéal, mais disons que ça marque quand même une distance avec le fait de dire simplement État islamique, comme si c'était en effet un État avec des frontières, etc.
Mais État islamique, pourquoi l'expression est inappropriée
Parce qu'en effet, il ne s'agit pas d'un État.
Il y a des structures.
Moi, je ne suis pas d'accord du tout.
Allez-y, Jean-Pierre.
Je suis pas d'accord du tout, parce que
il y a des structures étatiques,
c'est ça ? Il y a des structures étatiques. Tout simplement, lorsque Daesh, ou État islamique plutôt, prend une ville, il ne l'administre pas directement. Il en confie d'abord l'administration plutôt à des milices de quartier. Lui, immédiatement, va au combat ailleurs. Donc, une administration perdure. D'ailleurs, une des premières choses que l'État islamique a demandé, c'était à tous les fonctionnaires de revenir
à leur travail. Une deuxième chose qu'il a demandé, c'est un grand appel aux ingénieurs, aux médecins, aux techniciens de tout le monde sunnite arabe de venir les rejoindre pour bâtir un État. Donc il y a une volonté de bâtir un État. Et je crois que c'est un peu comme si on disait, tiens, le Parti communiste, un tel, on ne peut pas l'appeler Parti communiste parce que ce qu'il fait, ce n'est pas du communisme. Non, on a maintenu la fiction de l'Union soviétique communiste alors qu'elle n'était plus communiste. C'est à peu près le même problème. Je crois que c'est simplement un pays qui a un État islamique à 6 millions d'habitants maintenant, sous son contrôle
grand
direct,
comme eux, grand
comme la Grande-Bretagne, ouais. Au moins comme la Grande-Bretagne, avec quand même un certain nombre de frontières, parce qu'il ne veut pas aller n'importe où, je crois qu'il mérite d'être appelé État islamique, que ça plaise au ministre, qui en plus n'est pas agrégé de grammaire quand même, de grammaire arabe que je sache, parce que justement, employer le mot Daesh, ça veut dire État islamique en arabe. Alors on pourrait l'employer en arabe et pas en français, mais enfin c'est un peu un non-sens absolu.
Pour vous aussi, oui, Christian Chenon.
C'est vrai que c'est un vrai débat, mais c'est vrai que je rejoins un peu Jean-Pierre. C'est vrai qu'un État, c'est quoi? Ils font un drapeau, ils ont un drapeau, le drapeau noir, avec la fatia de l'islam. Ils ont effectivement une population importante.
Ils n'ont pas vraiment de frontières, en tout cas.
Ils ont les tribunaux, alors ils font la justice,
ils font
la police, ouais. Ils font l'armée, ils font l'enseignement.
Charia comme constitution, de la même façon que l'Arabie Saoudite a la charia comme constitution.
Je comprends l'idée, on comprend l'idée du ministre, de ne pas leur faire de la publicité. Mais en même temps, effectivement, il s'appelle Daulat el-Islamiyye fi Irak ou Sham, c'est-à-dire l'État islamique en Irak et au Levant. C'est de l'arabe. Alors c'est vrai que... Est-ce qu'on veut...
Là où on peut... Mais c'est vrai que nous, je ne vais pas défendre Fabius, mais c'est ce qui, à mon avis, gêne pas mal d'hommes politiques, c'est le caractère d'État. Quand on dit le Parti communiste, bon, c'est le parti...
Mais ce qui est intéressant, c'est que Fabius ne dit pas d'État islamique, mais Hollande a dit Daesh. Et Daesh, c'est l'État islamique. Donc on le dit en arabe, mais on ne dit pas en français.
À Libération, vous dites État islamique, organisation de l'État
islamique. État islamique. Donc, je veux dire, quand même, je crois qu'il y a d'autres problèmes plus importants quand même. Quand on pense au nombre d'assassinats, de meurtres, de décapitations, d'otages, etc., que de se poser un problème de sémantique comme ceci. Ça reste un problème de riche, finalement. La menace de l'État islamique, elle est bien présente.
Au Proche-Orient, on dit Daesh. Tout le monde dit Daesh.
Il y a aussi le califat.
Alors on peut même dire le califat. Enfin, en arabe, c'est l'acronyme arabe. On dit Hamas, c'est pareil, c'est un acronyme. On dit Hamas, c'est tout.
Alors, Jean-Pierre Perrin, dans l'édition du 25 septembre de Libération, vous dites que l'organisation d'Abou Bakr al-Baghdadi a fait une entrée sanglante dans le djihad global et qu'il détrône Al-Qaïda parce qu'il apparaît, dites-vous, autrement plus menaçant.
Écoutez, la marche dans l'horreur n'a rien à voir avec l'État, quand même, finalement. Si on prend la Corée du Nord, c'est un État. Et l'horreur est fréquente aussi. Et puis, on pourrait parler d'autres pays, l'Albanie sous Hoxha, par exemple.
Faut-il commencer à prendre position, la presse? Est-ce que c'est le rôle de la presse, Régis Le Sommier, de commencer à prendre position face à cette figure?
Notre rôle, il est d'informer, toujours. Il est toujours de témoigner et d'essayer de rendre au mieux les faits. Là, en l'occurrence, en ce moment, on est... La situation pour la presse, pour les médias en général, est assez problématique pour ces régions-là, parce que ce soit des frappes aériennes que l'armée de l'air française conduit là-bas, nous n'avons aucune image, ou alors quelques images grisonnantes. Nous n'avons pas de possibilité d'aller sur la fameuse base d'Abu Dhabi, puisque les Émirats Arabes Unis refusent la présence de journalistes là-bas. On peut aller à nos risques et périls, et je sais que j'ai certains camarades qui sont en ce moment sur la frontière turque, qui est absolument pas sécurisée. Donc c'est extrêmement compliqué. Quant à aller avec les gens de l'État islamique, c'est proprement impossible. Je crois qu'un seul média l'a fait. Il s'agit du groupe américain Vice, qui a envoyé un reporter là-bas. Mais là, encore une fois, la frontière entre la propagande et le vrai journalisme était quand même assez ténue pour ce cas. Donc voilà, donc on est, nous, très embêtés sur la façon de couvrir ce conflit, de le rapporter, de l'expliquer. Voilà, maintenant, prendre position contre, je pense qu'on a tous des valeurs humaines qui font qu'on ne va pas aller dans le sens de ces gens-là, et ça me paraît assez évident.
Oui, Christian Chenon.
Oui, on est citoyens et journalistes, mais c'est vrai, qui pourrait tolérer, justifier des exécutions? Je veux dire, c'est personne. Mais je pense qu'effectivement, c'est pas de la retenue, c'est trouver les mots justes, la précision, c'est pas en faire trop, c'est mettre le curseur le plus juste possible, ça sert à rien. Les actes sont tellement barbares, ça sert à rien d'en rajouter, d'exciter, de faire de la mousse, quoi.
Moi, je voudrais rajouter quand même une chose, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez nouveau avec l'État islamique par rapport aux autres massacres qu'on a pu couvrir dans nos carrières, que que ce soit Srebrenica ou autre. Ce qu'on voit avec l'État islamique aujourd'hui, c'est montrer un maximum les exécutions. Les 1500 soldats qui ont été capturés à Camp Spicer du côté de Tikrit, c'est ça qu'on a vu, on l'a vu. Et eux veulent le montrer, donc c'est quand même très différent.
Jean-Pierre Perrin.
Avec une exception, toutefois, quand même, c'est... Ils ont toujours voulu que personne ne sache comment ils traitaient leurs otages occidentaux. C'est comme ça la nouveauté, puisque chaque communiqué adressé, que ce soit aux familles, que ce soit à l'État, que ce soit aux services qui négociaient leur libération, commençait par la formule « nos médias ». C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit. Chaque otage libéré se voyait intimé l'ordre de ne rien dire sous peine de représailles immédiates. Et là, par exemple, lorsque les quatre journalistes français ont été libérés, au même moment, ils ont assassiné un otage russe. J'en parle parce que personne n'en parle de cet otage russe qui s'appelle Sergueï, qui a été assassiné froidement en disant « voilà, si vous parlez, ce qui va arriver aux autres otages ». Et c'était un peu pour rebondir sur la polémique qui a agité ces derniers jours les journaux, sur la responsabilité en ce qui concerne Nemouche, fallait-il dire ou fallait-il pas dire ?
Thibault Henton, le regard du Secret des Sources sur le web. Alors, l'organisation de l'État islamique est très active sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple près de 30 000 comptes Twitter qui relaient les informations et la propagande des djihadistes.
Alors oui, il faut peut-être parler d'une résonance plus que d'une présence incroyable en ligne. On a déjà beaucoup glosé sur le sujet. Des articles qui soulignent combien les djihadistes de l'organisation de l'État islamique donc, et leurs soutiens internationaux maîtrisent l'outil numérique et partagent avec toute une frange de la jeunesse mondialisée les référents culturels du web, ceux d'un certain cinéma hollywoodien, des jeux vidéo ou des photos de chats. Un article récent du Nouvel Obs titrait « Le temps des LOL barbares ». Je trouve que ça résume assez bien les choses. Dans les stratégies déployées par les soutiens du djihad sur les réseaux, il n'y a cependant pas que cette fusion un peu nauséeuse de l'horreur avec le rire, mais des productions plus léchées, introduites par des images tournées depuis des drones, par exemple. Et quand certains de ces dizaines de comptes Twitter qui postent le même message dans 7 langues différentes sont bloqués, comme c'est de plus en plus le cas sur Twitter, d'autres réapparaissent aussitôt. La propagande passe aussi par des services qui permettent de copier-coller du texte anonymement et d'autres plateformes bien connues des Occidentaux comme SoundCloud pour le son, Instagram pour les photos ou WhatsApp. Très difficile in fine de suivre tout ça, mais on peut compter sur ceux que Pierre Alonso, dans un article de Slate, a appelé les Jihad Watchers, journalistes, blogueurs, observateurs de cette propagande djihadiste en ligne qui traquent les comptes Twitter éphémères et les communiqués. Ces Jihad Watchers remarquent que la communication s'est déplacée des forums en langues arabes vers les réseaux sociaux, mais qu'on pourrait bientôt assister à un mouvement inverse du fait de la difficulté de plus en plus grande à faire la part entre la vraie et la fausse information.
Alors ce n'est pas la première fois que cela arrive et que la presse s'interroge face à un flot d'informations qui pose question.
Oui, ça rappelle en effet les controverses qui ont accompagné la divulgation des secrets militaires et des diplomatiques américains par Wikileaks. Vous savez que tout l'enjeu pour Wikileaks et Julian Assange, en rétention depuis 2 ans maintenant dans l'ambassade d'Équateur à Londres, est de faire valoir Wikileaks comme un organe de presse à part entière, avec les protections qui vont avec et notamment celle du secret des sources. C'est pourquoi, au moment de la divulgation des câbles diplomatiques, conversations secrètes échangées au sein du réseau international des ambassades des États-Unis, Wikileaks avait dans un premier temps collaboré avec plusieurs grands médias. Quelques semaines plus tard, l'organisation avait cependant fini par rendre disponible sur son site une grande partie des documents, pas tout, mais une grande partie, comme ça, sans filtre. Le fait est que pour Assange, la presse n'a pas assez exploité ces documents, signe d'une résistance ou d'une trop grande proximité du quatrième pouvoir avec les autres. C'est tout l'objet d'un documentaire passé inaperçu mais très intéressant intitulé « Mediastan », dans lequel des journalistes sympathisants de Wikileaks visitent des rédactions depuis l'Afghanistan et le Turkménistan jusqu'au siège du Guardian et du New York Times en demandant à chacune pourquoi elle rechigne tant à enquêter sur la base de ses câbles diplomatiques. Bon, je vous invite à le visionner en ligne. Et même si Assange est parfois accusé lui aussi, par plus radical que lui en matière de transparence, de rétention d'informations, il a ce mérite de reposer cette question, ce problème de la fonction des médias comme intermédiaire entre le secret ou la propagande d'État et le citoyen.
Thibault Henton.
Down. She makes me run round. Where's fun now? Where's fun now? And I feel run down. She breaks her love down. I feel the real now. She says I'm too proud.
Keep you in the back of my mind. You're always in my sight. Keep you in the back. Keep you in the back of my mind. You're always in my sight.
Sundown, extrait du nouvel album de Tricky. Toutes les références sur notre site franceculture.fr. Vous pouvez bien sûr commenter et télécharger l'émission. Jean-Marie Charon, notre sociologue spécialiste des médias, est avec nous. Alors aujourd'hui, Jean-Marie, la perception et le travail du journaliste sur un terrain de guerre est à un tournant. Le journaliste n'est plus un témoin neutre ni accueilli comme cela.
Je pense que, justement, si on revient sur la question des otages journalistes, je crois qu'il faut repartir quand même de d'où l'on vient, c'est-à-dire l'idée que on a une posture, disons, d'une certaine manière, une représentation du journaliste comme témoin neutre. Vous avez dit tout à l'heure témoin, effectivement, c'est-à-dire l'idée que le journaliste est un tiers, autonome, en retrait des parties en conflit. Et par rapport à la discussion qu'on avait à l'instant, comment parler d'eux ? Moi, il me semble qu'effectivement, le public et les journalistes, je crois, ne comprendraient plus qu'on en revienne à une situation qu'on a connue, effectivement. D'une certaine manière, la posture du vieux correspondant de guerre, hein, qui était en uniforme parfois pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui était souvent obligé de travailler derrière, je dirais, les lignes de sa propre armée ou d'une armée qui était considérée comme plus facile à accompagner. Et je pense que cette posture du témoin neutre, elle est particulièrement valorisée par ailleurs aujourd'hui, dans la mesure où on est dans une période où le journalisme a le sentiment d'être gagné par le journalisme assis, celui qui ne peut pas sortir, où les rédactions ont de plus en plus de mal, effectivement, à envoyer des journalistes dans les zones de crise, à cause du nombre de morts. Des comptes macabres, une vingtaine de journalistes dans les dernières décennies, français, sont morts simplement les Français, et une quinzaine d'otages français. Donc, d'une certaine manière, il me semble qu'on avait une cohérence jusqu'à ces dernières années à ce que les journalistes pris en otage soient défendus par une ONG, par exemple, un peu comme d'ailleurs les victimes de guerre étaient soignées par la Croix-Rouge, MSF. Et c'est certainement pas un hasard que d'ailleurs Reporters sans frontières avait repris l'acronyme SF pour eux. Et quelle était finalement la manière de défendre les journalistes otages ? Eh bien, c'est pour cette organisation et pour les autres organisations du même type, c'était d'en appeler à l'opinion publique en partant du postulat que les preneurs d'otages étaient probablement accessibles à ce type de rapport de force symbolique. Et de ce point de vue-là, on peut dire que il y avait une nécessité de transparence et d'expliquer pourquoi les journalistes étaient là, qui étaient ces journalistes et quelles étaient l'avancée des négociations. Et on peut dire que ça donne le sentiment d'avoir marché pour la France, puisque aucun journaliste otage n'a été exécuté, même si ça pouvait durer beaucoup de temps, même si certains ressortaient marqués, mais contrairement à leurs confrères anglo-saxons. Alors il me semble que là, les choses sont en train de tourner. Bien d'abord parce qu'il y a une fiction qui est tombée, c'est celle que finalement, que ce serait la symbolique qui ferait qu'on relâche les otages. On sait qu'aujourd'hui, les États, en réalité, sont obligés de négocier, les gouvernements sont obligés de négocier, qu'il y a de l'argent qui est distribué. Et du coup, on a le sentiment qu'au travers de cette question des otages journalistes, se pose la question du financement de ces organisations terroristes. Et puis, il y a certainement l'idée que la légitimité même de la prise de risque est peut-être plus la même. Certains ont tendance à dire aujourd'hui, mais finalement, on obtient de l'information via Internet, via les réseaux sociaux, via Skype. Est-ce qu'il faut toujours y aller ? Et puis, il y a cette question qu'a remis à l'ordre du jour la question question de l'otage français qui vient d'être assassiné, c'est est-ce qu'on a toujours traité de la même manière les otages journalistes et les non-journalistes ? Et c'est vrai avec un sentiment souvent qu'il y avait une forme de déséquilibre. Et donc, il me semble qu'il y a une situation qui est en train de se retourner, dans laquelle les médias sont davantage incités, sous la pression notamment on a entendu tout à l'heure les ministres, comment les ministres s'expriment, à accepter des zones de silence, des zones de non-dit, de ne pas parler à certains moments. Et on l'a vu, que le problème s'est posé en Afghanistan, que le problème s'est de nouveau posé en Syrie. Alors, ne pas parler, ça me paraît assez dérisoire. Si les médias n'en parlent pas, on le saura tout de même, les choses circulent. Mais tout à l'heure, vous m'avez dit, on ne peut pas simplement relayer ces images horribles. Je suis tout à fait d'accord, mais je pense que la posture des médias est en train de changer par rapport à ça. La question n'est pas de savoir si on ne doit pas parler des journalistes qui sont otages ou si on doit garder le silence, mais plutôt d'expliquer pourquoi. Et davantage, je dirais, face au flux, au flot d'informations qu'on obtient par les réseaux sociaux ou par Internet, quel est précisément l'apport des journalistes dans leur travail de décodage, de mise en perspective et d'explication précisément de ces images auxquelles on accède.
Alors, vous avez parlé de rançon. Je rappelle que la position officielle de la France pour les otages, eh bien, c'est qu'on ne paye pas de rançon. Merci Jean-Marie Charon. Christian Chesneau, en 2004, on a beaucoup parlé de votre détention sur France Inter, France Culture, France Info. On l'a donné dès qu'on l'a su, en août. Ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Parfois, on garde secret la détention de journalistes ou d'otages pour faciliter les négociations. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que pour vous, ça a bien sûr été un bienfait, puisque vous avez été libéré au bout de 4 mois, mais quelle est votre position là-dessus ? Il faut en parler, il faut le faire savoir.
De toute façon, il n'y a pas de cas universel. C'est-à-dire que chaque prise d'otage est particulière. Donc le groupe est différent, l'endroit est différent, le mode de libération est différent. Donc c'est vrai que c'est difficile d'établir une règle pour tout le monde, quoi. C'est vrai que ça peut être utile, peut-être, s'il y a une chance de libération, de faire le silence quelques jours, je ne sais pas. Mais nous, c'est vrai que ça a été très vite publié parce que nos ravisseurs ont fait une vidéo, ont fait un ultimatum. Ce qui change tout, c'est que les preneurs d'otages n'ont plus besoin des journalistes ou les guerrieros ou tous les gens, ces groupes-là, ils produisent de l'information eux-mêmes. Ils ont l'Internet, ils ont de la vidéo, ils ont du son, ils font tout ce qu'ils veulent. Donc c'est vrai que nous, on est devenus un petit peu les témoins un peu, pas forcément gênants, mais je veux dire, on sert pour eux, on ne sert plus à grand-chose, si ce n'est peut-être à récupérer des rançons, à de l'argent. Et ça change tout, parce que maintenant, les ravisseurs s'adressent directement aux opinions publiques, alors que dans les années 70-80, ils devaient passer par le journal qui allait publier, ou une télévision. Donc c'était un autre temps. Le temps médiatique a complètement changé, y compris pour les preneurs d'otages.
Jean-Pierre Perrin, Régis Sommier, vous vouliez intervenir sur ce point-là ?
Oui, ou Jean-Pierre. Je crois quand même que en Syrie, par exemple, moi j'ai trouvé que les gens aimaient nous parler. Ils aimaient vraiment, vraiment nous parler. Ils avaient beau être aussi le nez sur Internet et sur ce que leurs propres médias produisaient, ils aimaient nous parler. Ils voulaient à tout prix nous parler. Ils voulaient à tout prix nous montrer. Et dans un premier temps, alors maintenant ça a sans doute changé, on était très, très bien accueillis. Ils pensaient que nous, les journalistes occidentaux, on allait pouvoir changer le cours de la guerre parce qu'on allait informer enfin nos gouvernements de ce qui se passait vraiment. Alors après, j'imagine qu'il y a eu une grande déception quand ils ont vu que la guerre, évidemment, ne changeait pas, mais qu'au contraire, elle s'intensifiait.
Aujourd'hui, vous avez des journalistes, des reporters en Syrie ou en Irak ?
Nous, on en envoie ponctuellement, oui, mais c'est toujours un dilemme de plus en plus difficile, c'est-à-dire de jauger la part de risque qu'on prend, en sachant que le journaliste aujourd'hui est quand même systématiquement une cible. La différence entre, je ne suis pas tout à fait d'accord en disant qu'entre entre Hervé Gourdel et un de nos confrères, aujourd'hui c'est un Français qui est alors il y a une valeur marchande de l'otage, ça c'est, mais en l'occurrence après la déclaration du porte-parole de l'État islamique, c'est tuer les sales Français, et qu'ils soient journalistes ou guides de haute montagne, je crois que ça ne change pas grand-chose. Donc la question elle est là, c'est le jeu en vaut-il de la chandelle, quelles images faire, qu'est-ce qu'on va apporter en plus à l'histoire aussi, parce que si c'est pour faire le énième embedment avec les Peshmerga kurdes, ce qui est très bien, mais on l'a fait beaucoup, ça a beaucoup été fait. En l'occurrence, il y a d'autres endroits où on aimerait aller, où on ne peut pas aller. Moi, je crois que avec la question des frappes et sur la suite du conflit, là, en attendant que peut-être certaines villes soient libérées et qu'on puisse aller témoigner sur l'arrière peut-être des ou avec les Peshmerga kurdes ou l'armée irakienne, il va falloir attendre beaucoup avant d'avoir des images intéressantes ou en tout cas une vraie réalité de terrain. C'est là où on revient quelque part un peu à la guerre sur écran qu'on avait connue pendant la première guerre du Golfe. Aujourd'hui, les Américains nous donnent des images, des frappes grisonnantes. On ne sait pas très bien ce que ça donne. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que là, en l'occurrence, il y a eu quelques vidéos qui sont parues de la ville de Raqqa, qui est la capitale donc, de l'État islamique, qui ont été prises par une personne sous une burqa pendant plusieurs semaines. Très intéressantes, notamment en montrant des cybercafés avec des jeunes filles appelant leur famille en France pour leur dire « Je ne reviendrai pas, je suis venu en Syrie, voilà, je me sens bien ici, maman, je ne reviendrai pas ». C'était quand même assez stupéfiant de voir ça. Et quelque part, voilà, de temps en temps, il y a une propagande comme ça. Pas du tout une propagande, mais des choses vraies qui sortent et qui ne sont pas contrôlés. Ça, évidemment, nous, notre but, c'est d'être à l'affût de ce genre de choses et d'avoir le maximum de témoignages crédibles.
Otage, la presse doit-elle tout dire, tout publier et comment parler de l'État islamique? Vos commentaires sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr.
Le secret des sources.
Thibaut Henton, après le web, les images, il y a très peu de reportages sur l'État islamique et pour cause, et ils ont été qui ont été réalisés sur ce groupe. Il y en a un, je crois.
Oui, un reportage de Vice. Alors la question, c'est comment expliquer que le seul média qui ait tourné des images de l'organisation État islamique soit un média plus coutumier de reportages vidéo sous acide dans le métro ou en visite en Uruguay pour partager un pétard désormais légal avec le président Mujica? Eh bien, d'abord, par l'auteur de ce reportage, un journaliste palestinien, Mediane Deirié, passé par Al Jazeera, qui connaît très bien la région et les différents groupes djihadistes. Ce reportage courageux, qui reprend de nombreuses images de propagande, soit dit en passant, a le mérite de mettre des images sur cet aspirant État, sa manière de rétablir une forme de justice, d'endoctriner les plus jeunes. Il a été vu plus de 3 millions de fois sur YouTube, mais il ne se suffit pas à lui-même. Alors, fait notable, Envoyé spécial, le magazine d'investigation de France 2, a repris le reportage de Vice News jeudi dernier, avec un doublage en français, sans qu'il me soit possible de comparer avec l'original, car l'émission ne dispose pas, m'a-t-on répondu, de droits de reproduction en ligne de ce reportage en ligne. Bon, c'est quand même symptomatique en tout cas qu'une télévision française doive reprendre un reportage paru uniquement sur le net pour couvrir ce sujet.
Voilà, merci Thibaut Henton. Le clin d'œil de l'émission, il tourne autour de la Syrie aujourd'hui.
Vous savez comment les méchants raisonnent, c'est pour cela que vous êtes ici.
Ce n'est pas un cas de figure dans lequel les ennemis de nos ennemis deviennent nos amis.
Si l'Iran et l'Arabie Saoudite sont en total désaccord sur la question syrienne, Téhéran soutenant Bachar el-Assad et Riyad voulant la chute du président syrien, sur l'État islamique en revanche, les deux grands pays du Moyen-Orient ont le même objectif, mettre fin à la menace qu'il fait peser sur la région.
Notre vocation est de lutter contre le crime à l'échelle planétaire.
En ce qui concerne la Syrie, nous n'avons pas un seul ennemi, Daesh, nous avons deux adversaires, c'est-à-dire à la fois M. Bachar el-Assad et le groupe Daesh.
Lutter contre les djihadistes en Irak serait inutile, inefficace, s'ils ne sont pas combattus en même temps dans leur base même, là où ils se sont formés, là où ils se sont développés, la Syrie.
Cette théorie n'est pas sans faille, d'abord parce que combattre l'État islamique renforce et relégitime automatiquement Bachar el-Assad.
Et voilà comment Bachar el-Assad peut abattre aujourd'hui des cartes majeures. Lui qui, depuis 3 ans, ne cesse de justifier sa sanglante répression au nom de la lutte contre le terrorisme.
Bachar el-Assad ne peut absolument pas être un partenaire dans la lutte contre Daesh.
Ce n'est pas un cas de figure dans lequel les ennemis de nos ennemis deviennent nos amis.
Téhéran rejoint Moscou dans sa critique et ajoute un argument. Marzia Afram, la porte-parole du ministre iranien des Affaires étrangères, pointe du doigt l'Arabie Saoudite et le Qatar. Elle critique ceux qui vont s'engager dans cette coalition, mais qui financent des djihadistes.
Ce n'est pas un cas de figure dans lequel les ennemis de nos ennemis deviennent nos amis.
Voilà, les ennemis de nos ennemis. on verra la suite. Un clin d'œil de Nathalie Lopez. L'actualité de la semaine à l'étranger, nous allons à Rome aujourd'hui avec Anaïs Feuga, correspondante de Radio France et bien sûr de France Culture. Bonjour Anaïs.
Bonjour Frédéric.
Alors, est-ce qu'il y a un débat en Italie sur la façon dont la presse rend compte des assassinats d'otages? Est-ce que, par exemple, des photos d'Hervé Gourdel ont été publiées en Italie?
Oui, évidemment. Sa photo était en une des principaux journaux au lendemain de sa mort. Mais alors, pas de la même manière. La Stampa, par exemple, a publié une photo d'Hervé Gourdel souriant, regardant l'objectif en haut d'un sommet enneigé. Même type de photo en une du Corriere della Sera. En revanche, la Repubblica avait publié une photo tirée de la vidéo envoyée par les terroristes. Alors, la qualité, bien sûr, est mauvaise, mais rien n'est flouté. Et la légende dit « Les derniers instants de vie d'Hervé et Pierre Gourdel, autour de lui, ses bourreaux ». À noter qu'en page intérieure, les quotidiens italiens reprennent souvent ces images glaçantes des trois autres otages vêtus d'orange, agenouillés à côté de leur bourreau, couteau à la main. Donc il n'y a pas vraiment de débat sur la manière de rendre compte. Globalement, pas de vidéo, quelques images en revanche tirées des vidéos. Et puis j'ai trouvé dans le Corriere della Sera cet article, le califat est le modèle des vidéos exécutions. Alors le quotidien cite plusieurs autres assassinats, celui d'un Touareg au Mali, d'un autre homme décapité à Tombouctou. Et puis rappelle que cette méthode est ancienne. Exemple, le cas en 1986 du journaliste britannique pendu sur ordre de Kadhafi en rétorsion aux attaques américaines. Les propagandistes d'Abou Bakr al-Baghdadi ont affiné la technique, écrit le journal, en créant un show macabre, facilement imitable. Les assassins d'Hervé Gourdel répètent de manière artisanale ce qu'ils ont vu dans les vidéos syriennes et le journal dénonce une internationale de la terreur appelée à s'élargir.
Alors on va faire un grand écart d'actualité entre Paris et Rome, parce que ce qui fait vraiment la une de l'actualité cette semaine en Italie, Anaïs, c'est la réforme du marché du travail. C'est ça qui
est
publié.
On n'en parle pas du tout en France, mais c'est absolument omniprésent ici, à la télé, dans les journaux. Ça fait des jours, des semaines qu'on ne parle que de ça, du Jobs Act, la réforme de Matteo Renzi pour redynamiser le marché du travail. On en parle beaucoup parce que ça touche un véritable tabou ici en Italie, l'article 18 du Code du travail qui limite les licenciements. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, sachez en fait qu'il ne concerne qu'une petite minorité d'Italiens. La gauche se déchire là-dessus. Il Corriere della Sera explique que ça fait très longtemps que la gauche italienne n'avait pas autant compter. La crédibilité du parcours de réforme promise par l'Italie à l'Europe dépend en effet de ses divisions internes, à mi-chemin entre psychodrame et règlement de compte. La Stampa estime que l'Italie n'est pas un pays pour les jeunes, c'est un pays vieux, fait pour les vieux, qui se complaît à le rester. Le débat surréaliste sur l'article 18 qui intervient à chaque changement de gouvernement en est la énième démonstration. Bref, toute l'Italie retient son souffle jusqu'à lundi, jour de la réunion de la direction du Parti démocratique. D'ici là, eh bien, les négociations iront bon train tout ce week-end.
Anaïs Feuga, merci, en direct de Rome. Le secret des sources se termine, otage. La presse doit-elle tout dire, tout publier? Comment parler de l'État islamique? Vos commentaires, comme chaque semaine, sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. Vous pouvez également réécouter, podcaster l'émission. Merci, un grand merci à nos invités. Michèle Léridon, directrice de l'information de l'AFP. Régis Le Sommier, directeur adjoint de Paris Match, avec cette semaine un reportage chez Ebola à Monrovia, au Libéria, aux côtés de Lucie, l'infirmière du MSF qui est soignée en ce moment en France.
Oui, absolument, on raconte son histoire.
Jean-Pierre Perrin, grand porteur à Libération, merci. Je signale votre dernier livre, La mort, ma servante, lettre à un ami assassiné, paru il y a quelques mois chez Fayard. Merci d'avoir été avec nous. Christian Chéneau, vous, grand porteur à France Inter, que l'on entend bien sûr régulièrement sur France Culture. Alors vous, c'est apparaître le 9 octobre prochain chez Robert Laffont, Les chemins de Damas, le dossier noir de la relation franco-syrienne, une grande enquête avec Georges Malbruno. Je suis sûr que nous aurons l'occasion d'en reparler dans le secret des sources. Merci également à Jean-Marie Charon, Thibaut Henton, Vincent Abouchard et Mathias Mégy qui m'ont aidé à préparer et réaliser cette émission. Avec aux manettes Jean Frédérics. Dans un instant, le journal de Mathieu Laurent et puis réplique « Qu'est-ce qu'être européen ?» Alain Finkielkraut reçoit Coralie Delhomme et Bernard-Henri Lévy. C'était le secret des sources sur France Culture. À la semaine prochaine.
Ce qui change tout, c'est que les preneurs d'otages n'ont plus besoin des journalistes ou des guerriers ou tous les gens, ces groupes-là. Ils peuvent faire, ils produisent de l'information eux-mêmes. Ils ont l'Internet, ils ont de la vidéo, ils ont du son, ils font tout ce qu'ils veulent.
Il va falloir attendre beaucoup avant d'avoir des images intéressantes ou en tout cas une vraie réalité de terrain. C'est là où on revient quelque part un peu à la guerre sur écran qu'on avait connue pendant la première guerre du Golfe.
enfin un État islamique à 6 millions d'habitants maintenant sous son contrôle
grand
direct,
comme eux, grand...
grand comme la Grande-Bretagne, au moins comme la Grande-Bretagne, avec quand même un certain nombre de frontières parce qu'il ne peut pas aller n'importe où, je crois qu'il mérite d'être appelé État islamique, que ça plaise aux ministres, qui en plus n'est pas agrégé de grammaire quand même, de grammaire arabe que je sache.